31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue.
Bonjour. En attendant qu'ils installent la bonne présentation PowerPoint, je vais prier pour notre temps ce matin. Voilà. Donc, merci tellement, Seigneur, pour cette fête des mères, une journée qui est mise à part pour honorer toutes les mamans ici. Puis, je veux vraiment te remercier, c'est ça, de nous avoir rassemblés ce matin. Je te prie, Seigneur, que ce ne soit pas mes mots ce matin, mais que ce soit vraiment tes mots ce matin qui sont dits à travers moi. Puis je te prie qu'on ait un bon temps ensemble, puis que chaque personne d'ici parte ayant appris quelque chose de nouveau sur toi. Amen. Donc, parfait. Bonjour à tous, puis merci de m'avoir ce matin en cette fête des mères. C'est assez spécial aujourd'hui parce que j'ai non seulement ma mère ici, mais aussi ma grand-mère et ma tante, donc je ressens triplement la pression. Donc, mon désir ce matin, c'est vraiment de célébrer les mamans, notamment celles qui sont dans cette assemblée. Je ne suis pas une mère moi-même, mais je vous adresse aujourd'hui la parole en tant que la mère que la fille d'une mère incroyable et quelqu'un qui espère un jour devenir une mère. Pas bientôt, mais un jour. Donc, la fête des mères, comme j'ai dit tantôt, c'est une journée mise à part pour honorer les mères de notre entourage. Puis, on va voir aujourd'hui que la parole de Dieu nous enseigne à honorer nos mères et ce qu'elles ont fait pour nous. Puis, on voit que Proverbe 31 montre ça. Je reconnais tout d'abord que j'ai été vraiment bénie moi-même d'avoir une figure maternelle incroyable dans ma vie, puis ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est important de reconnaître pour commencer que la fête des mères, ce n'est pas facile pour tout le monde ici. Peut-être que votre mère est décédée, peut-être aussi qu'elle est loin d'ici. Peut-être que des circonstances ont fait en sorte que vous n'êtes plus en contact avec votre mère ou peut-être qu'elle était la cause d'abus ou de violence. Peut-être que vous êtes mère vous-même et que vous ne vous sentez pas digne d'être célébrée ce matin en raison de gestes que vous avez posés ou d'une relation fracturée avec votre enfant. Ma prière est vraiment que le Seigneur vous libère votre cœur de toute amertume, de toute douleur, de tout deuil et de toute condamnation aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci. Et qu'il vous guide vers la restauration et vers la réconciliation. Mais ce message aujourd'hui est pour vous aussi. Merci. Avec le but premier de voir comment Dieu a conçu le rôle de la mère et comment ce modèle nous pointe vers la personne de Jésus. Donc, ce message porte sur un passage que j'associe à ma propre mère. Anne-Laurence l'a vraiment bien lu tantôt, c'est Proverbe 31. Et c'est une description. Ce proverbe décrit une femme vertueuse et une mère capable. Ce passage, c'est la description la plus compréhensive dans la Bible de ce qu'est une femme de Dieu. Le contexte, pour un peu de contexte, puis je vais continuer un peu. Voilà. C'est ça. Pour un peu de contexte, c'est un poème, en fait. Donc, dans la Torah juive, c'est un acrostiche avec la suite des premières lettres de chaque ligne formant l'alphabet hébreu. Donc, ce matin, on va étudier ensemble c'est quoi une femme vertueuse. Les mères que j'ai vues que je vois dans cette salle, c'est des femmes vertueuses. Puis, on va étudier ça ensemble ce matin. Maintenant, je veux souligner que le but de ce message, c'est vraiment pas de nous mener à comparer notre mère et notre femme à la femme vertueuse qui est décrite dans Proverbe 31. Parce que je veux pas que vous sortez ce matin puis que vous dites « ma femme est pas comme ça » ou « ma mère est vraiment pas à la hauteur ». C'est pas le but. Parce que, soyons honnêtes, si on était pour se regarder nous-mêmes, on n'est probablement pas la description parfaite d'un homme, d'un mari, d'une fille ou d'un fils parfaitement vertueuse non plus. On est tous brisés et chacun de nous, on n'atteint pas à la gloire de Dieu. Puis il serait injuste de penser que toutes les qualités dans Proverbe 31 sont incarnées par une seule femme. Mais Proverbe 31, c'est un idéal que Dieu nous donne pour la femme et pour la mère. Et les standards de Dieu sont parfaits. Il ne va pas changer ses standards pour qu'ils soient à notre niveau. Mais sachez, chère femme et chère maman, que le but de Proverbe 31, ce n'est pas de nous faire sentir inadéquates en tant que mère, mais c'est plutôt de se rappeler que Dieu y pourvoit et continue de pourvoir pour nos lacunes. Il nous fournit le pardon du péché par son sacrifice à la croix, puis il nous donne son Saint-Esprit et sa parole pour nous guider, pour être des femmes et des mères, et des hommes aussi, pour devenir plus comme lui. Donc, on va étudier la femme vertueuse, puis je vais un peu parler de trois leçons que j'ai apprises en lisant ce texte, mais aussi que j'ai vues en regardant les femmes de mon entourage, les mères de mon entourage. Donc, premièrement, on va parler de son dévouement. On va parler de sa force, puis on va parler de son cœur pour le Seigneur. Donc, je vais commencer par parler un peu de son dévouement. Donc, je pense qu'on peut s'entendre. Vous savez quoi? Je vais cacher ça parce que je ne veux pas que vous lisiez les statistiques avant que j'y arrive. Donc, je pense qu'on peut s'entendre que toutes les mères, généralement parlant, qu'elles soient mères de tout petit ou mères d'adolescent, qu'elles soient mères au foyer ou qu'elles soient mères qui ont des carrières, qu'elles soient mères d'enfants plus faciles ou mères d'enfants plus difficiles, les mères travaillent fort. Puis je dis souvent à ma mère qu'elle est vraiment forte à la multitâche, le multitasking, donc le concept de faire plusieurs choses en même temps. Je me rappelle d'un été, je suis rentrée à la maison, puis j'ai trouvé au téléphone en train de parler à une autre mère d'un comité dans lequel elle était, en train de sceller des pots de confiture pour ses voisins en préparant un repas. Puis c'était le jour avant qu'on partait en voyage, puis elle s'assurait que tout le monde avait fait leur valise, puis que tout le monde avait leur passeport. Puis je dois dire que pour moi, une injection intraveineuse de caféine ne me donnerait pas cette endurance. Puis, une firme, juste pour vous donner une petite idée du dévouement des mères, une firme de statistiques nord-américaines a montré que les petits de moins de 5 ans ont besoin de l'attention de leur mère à toutes les 4 minutes. Donc ça, c'est 210 fois par jour. Les mamans font en moyenne 2,2 heures de tâches domestiques par jour, puis ceci n'est pas pour blâmer les maris dans cette salle, mais 88% de la lessive faite dans les foyers canadiens est faite par les mères. Ça, c'est 330 charges de lessive et 5300 articles de vêtements par année. Donc, regardez vos chandails ce matin et puis réalisez, remerciez votre femme et votre mère qui ont fait ça. Et si vous êtes un mari qui le fait, c'est incroyable aussi. Donc, nos mères sont dévouées. Être une mère n'est pas un rôle facile et ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de prières. Puis la femme vertueuse, on voit qu'elle vient répondre aux besoins de sa famille. Dans verset 12, on lit « Elle donne la nourriture à sa maison ». Le terme hébreu pour nourriture dans ce passage est soit lié à la chasse ou à la récolte. Puis dans les deux cas, c'est la nourriture qui est acquise par le travail. Et non seulement ça, mais on voit qu'elle s'applique dans sa tâche. Dans verset 14, on lit « Elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin ». Donc, ça veut dire que dans le royaume d'Israël, donc c'est le contexte dans lequel le proverbe a été écrit, le pain de loin, c'est des produits importés. Donc, c'était surtout des épices. Donc, la femme vertueuse, dans Proverbe 31, elle ne s'arrête pas juste à répondre aux besoins de sa famille. Elle s'y applique, elle veut les bénir. Et une façon qu'elle fait ça, c'est qu'elle met de la variété dans ses plats. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre de la variété dans vos plats, mais c'est juste intéressant comment cette femme, justement, on voit qu'elle veut bénir sa famille. Elle ne veut pas juste répondre aux besoins. Elle s'assure que tous sont bien chauds pour l'hiver. Prenez un moment pour penser à ce dévouement. Pensez aux sacrifices faits au niveau du temps, de l'argent, des relations et des carrières pour élever un enfant. Pensez aussi aux multiples chapeaux que portent les mamans. Je vais en nommer une couple auxquelles j'ai pensé rapidement, puis il y en a beaucoup plus. Cuisinière, chauffeuse de taxi, médecin, concierge, gouvernante, hôtesse, psychologue, la liste continue. Tout ça est sous le rôle, le chapeau d'être une mère. C'est comme tout compris dans le rôle du maire, et ça, c'est digne de louange. Je parlais récemment à une amie à moi par rapport à Proverbe 31 et ce modèle de la femme vertueuse, puis elle a roulé les yeux, puis elle a dit, c'est tellement un cliché pour les femmes, ce texte. La femme décrite dans Proverbe 31, c'est juste une femme soumise qui se contente de faire des tâches domestiques. Puis, il y a des gens qui sont peut-être d'accord avec ça, moi non. Le proverbe, d'après moi, nous donne beaucoup de flexibilité en tant que femme par rapport à ce dévouement. Comment est-ce que nous, on va choisir en tant que femme d'être dévouée à notre famille? Donc, il va avoir l'air différent d'une femme à une autre. Puis quand on lit un verset comme le verset 13, qui n'est pas écrit là, on lit « Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse ». On pourrait l'interpréter littéralement, puis on pourrait penser qu'une femme doit apprendre le tissage et la couture. Mais je dirais que notre Dieu de grâce, qui a créé chacun de nous avec nos propres génies et chacun de nous avec nos propres habiletés, nous accueille tous, puis il ne s'attend pas à ça. Si vous êtes capable de faire ça, que Dieu soit loué là-dedans, je pense à Isabelle. Mais l'idée en lisant ce texte, ce n'est pas de lire ce passage et de se concentrer sur les tâches qui sont décrites, mais plutôt sur les qualités qui sont soulignées dans ces tâches. En lisant le passage ainsi, on voit le passage très différemment. On voit dans le verset 11 que c'est une femme fiable. On voit dans le verset 13 que c'est une femme diligente. Vous pouvez lire un peu. On voit dans le verset 15 qu'elle est énergétique. Dans le verset 16, on voit qu'elle est ingénieuse. Puis dans le verset 20, on voit qu'elle est charitable. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à constater que la femme vertueuse de Proverbe 31 n'est pas une femme qui se contente de mordre sa langue puis de faire la lessive et la vaisselle. Oui, il est vrai qu'elle semble exceller dans son foyer, mais elle est clairement active à l'extérieur de son foyer aussi. C'est une femme d'affaires, la femme de Proverbe 31. Dans le verset 16, on lit « Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son foyer. Oh, » j'ai pas la voix. Voilà, donc du fruit de son foyer, elle fait du profit. Donc, c'est une entrepreneure qui ne mange pas le pain de la paresse et dont la lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Mais ce n'est pas non plus une tycoon ou un magnat qui est tellement occupée qu'elle ne voit pas les besoins autour d'elle. On voit qu'elle est vraiment charitable. On voit dans le verset 20 qu'elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la même main qui est utilisée pour les tâches domestiques dans d'autres versets, comme dans le verset 19 qui dit « Elle met la main à la quenouille ». La quenouille, ça, c'est un instrument pour le tissage. La même main qui est utilisée pour les tâches domestiques au sein du foyer est utilisée pour étendue à l'indigent. Donc, elle utilise cette même main pour bénir les autres en dehors de son foyer. Mais on voit aussi qu'elle est dévouée à son mari. Donc, on lit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Ça, c'est les versets 11 et 12. Ceci est important. Une des plus grandes bénédictions dans la vie de ma sœur et moi était de voir ces moments où j'ai vu ma mère encourager mon père, où j'ai vu en train de tendre sa main, poser sa main en prière sur lui, où j'ai vu en train de l'honorer dans ses décisions. Les mères sont tellement sous pression d'avoir comme priorité première leurs enfants. Puis, je comprends ceci, je comprends ce principe, mais je suis vraiment reconnaissante de ne pas avoir grandi dans un foyer où le focus premier était les enfants dans la famille. Plutôt, notre foyer était centré sur l'engagement dans l'union de mes parents sous l'autorité de Dieu. Puis ça, ça a beaucoup moins de risques de s'écrouler. Plutôt, c'est ça. Donc, le dévouement de ma mère à mon père, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une façon qu'elle montre son dévouement envers sa famille et envers ses enfants. Puis le mari, ensuite, lui, il a comme rôle, on vous lit dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Donc, qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il est mort pour elle. Donc, le mari, lui, il meurt à lui-même pour supporter sa femme dans son rôle de mère. Et je reconnais que ceci est un idéal. Je reconnais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas un mari qui peut prendre ce rôle. Puis oui, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit vient en aide à celles qui en ont besoin et ceux qui en ont besoin et qui les guident. Mais l'Église devrait être catalyseur dans les efforts pour soutenir les mères monoparentales aussi, les aidant de toute façon possible à alléger leur fardeau. Les mères travaillent très fort. Une amie à ma mère était une avocate, puis elle travaillait 70 heures par semaine, puis elle avait deux jeunes enfants. Puis après plusieurs mois de prière, elle a décidé de quitter son emploi, puis quitter de sa carrière pour rester à la maison avec ses enfants. Puis je l'ai entendue parler à ma mère quelques mois plus tard, puis elle a dit, « Je comprends pas, je travaille plus, mais je me sens vraiment encore occupée, et pourtant je suis juste une mère. » Pourtant, moi je voudrais dire à toutes les femmes ici qui ont pris une décision similaire ou qui travaillent, vous n'êtes pas juste une mère. Que vous ayez une carrière ou non, le fait de cultiver une atmosphère d'amour, de grâce, d'humilité, d'ambition et de communion fraternelle au sein de votre foyer, c'est un mandat divin. C'est pas une question de juste être une mère, c'est une tâche qui requiert énormément de dévouement, énormément de travail et énormément de prière. En anglais, l'expression pour la femme vertueuse, c'est « a woman of noble character », c'est une femme de caractère noble. Puis quand on pense à la noblesse, ça veut dire que c'est un rôle de valeur élevé d'après Dieu. C'est à la fois enrichissant et gratifiant. C'est un appel qui est digne de louange d'être une mère. Faites-le à la gloire de Dieu. Que vous soyez mère ou non, ne minimisez pas ce rôle. Si Dieu dit que c'est un rôle important, comment oserait-on en faire une moquerie? Mon deuxième point, c'est que les mères sont fortes. On lit dans le verset 25, elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Et dans le verset 17, on lit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. On ne parle pas simplement de ses habiletés au sein du foyer, mais même que la mère est comparable à un puissant guerrier. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans Nahum 2:1, ça c'est un récit de guerre. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins, recueille toute ta force. Donc on voit la similarité entre les deux textes. Donc, en hébreu, femme vertueuse est décrite par le mot shail. C'est un mot hébreu qui veut dire, qui est utilisé en fait dans des contextes militaires et qui peut être traduit comme vaillant et brave. C'est une femme capable, la femme vertueuse. C'est une femme qui est vaillante. Et nos mères sont fortes et rien de moins. Souvent, dans des contextes chrétiens, on va entendre des débats par rapport au rôle de la femme et de la mère au sein de l'Église et au sein du foyer. Puis je ne vais pas rentrer dans un débat ce matin. On ne va pas rentrer dans des débats par rapport à ce qu'est la soumission. Mais ce que je veux dire, c'est que la mère n'est pas inférieure. Ça, c'est biblique. Elle n'est pas inférieure. Maintenant, c'est ça, je ne veux pas rentrer dans un débat, mais mon analyse de Proverbe 31 serait vraiment incomplète sans parler du deuxième mot qui est utilisé pour femme vertueuse, c'est « ézer ». Puis, c'est un mot qui est vraiment important en tant que femme et homme à se rappeler dans la Genèse, c'est le mot « ézer ». Donc, c'est un mot qui est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament, « ézer ». Puis, on va le voir 21 fois pour décrire Dieu et deux fois dans la Genèse. Donc, on va aller voir dans Genèse pourquoi « ézer » est utilisé. On lit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, cette aide, c'est Ève, c'est la femme. Aide. Donc, beaucoup de gens vont penser, comment tu pourrais dire que la femme est forte si c'est une aide pour l'homme? Ça ne sonne pas comme une femme forte. Mais encore, je veux dire que Dieu est caractérisé par le mot « ézer » 18 fois dans la Bible. Et on va le voir, par exemple, dans Psaume 115:8. « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours, ézer, et leur bouclier. » Donc, on ne parle pas ici d'une aide servile, on ne parle pas d'une aide qui est inférieure. On parle d'une aide vitale. On parle d'une aide qui vient vraiment protéger, qui vient au secours. Puis c'est ça, une mère. C'est vraiment intéressant que ce mot qui est utilisé pour décrire qui est là pour décrire Dieu en tant qu'un secours, est le même mot qui est utilisé, que le Saint-Esprit a choisi d'utiliser pour caractériser la femme pour la première fois. Donc, Ézer, une femme est une aide vitale et un secours, c'est ça. Donc, la force d'une mère, on la voit de plusieurs façons. Pardon. C'est ça. Donc, la femme est Ézer Shaïl. La femme décrite, elle est vaillante, elle est brave. Et c'est vrai pour les mères. Le fait même d'accoucher d'un enfant est un sacrifice immense au niveau du corps. Avez-vous déjà pensé à ça, de remercier votre mère et votre femme pour ce sacrifice qu'elle a fait au niveau de son corps? D'avoir accepté de faire ça à son corps, c'est vraiment un choc pour le corps humain. Leur force, c'est non seulement physique, mais elle est morale aussi. On voit dans le verset 27 qu'elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. La femme, dans Proverbe 31, elle incarne la sagesse. Puis je peux parler de tellement de fois où ma mère m'a aidée à prendre des décisions. Surtout, c'est l'amour d'une mère qui est d'une force immense. C'est un amour qui est féroce. Je vais vous raconter une anecdote que je trouve illustre ça vraiment bien. Puis c'est pas une anecdote que j'aime beaucoup, mais c'est important de le mentionner ce matin. Donc, ma première journée à la maternelle n'était pas une des journées les plus glorieuses de ma vie. J'ai pas vraiment le temps de tout rentrer dans les détails, mais un des incidents qui est arrivé, c'est que d'une façon ou d'une autre, j'ai fini sur le mauvais autobus scolaire à la fin de la journée. Donc, je me demande encore aujourd'hui pourquoi je me suis pas manifestée jusqu'à ce que l'autobus était dans le lot d'autobus. À la fin, j'étais la seule dans l'autobus, puis le chauffeur m'avait pas remarqué parce que j'étais toute petite. Puis de l'autre côté de la ville, ma mère était à un arrêt d'autobus sans enfant. Donc, les portes se sont ouvertes, un enfant est sorti, l'autre enfant est sorti, l'autre enfant est sorti, mais pas son enfant. Donc, instantanément, son instinct maternel s'est déclenché, puis elle savait que quelque chose n'allait pas bien. Cet instinct maternel est vraiment le résultat de l'amour d'une mère. C'est un amour qui protège. Puis le chauffeur d'autobus lui a dit, « Madame, ne vous inquiétez pas, restez calme. » Puis ça, c'est un peu en vain comme suggestion, comme vous pouvez l'imaginer. Pour ceux qui connaissent ma mère et pour ceux qui connaissent n'importe quelle mère, c'est ça. Quand votre enfant de 5 ans a disparu, je pense pas qu'une mère, en entendant cette suggestion, aurait pensé, « OK, je vais aller prendre un café. » Donc, finalement, on s'est retrouvés, une heure plus tard ou quelque chose du genre. Puis, ça s'est bien fini, mais ce qui était vraiment intéressant, puis je me rappelle encore 15 ans plus tard, je me rappelle d'être rentrée dans l'école scolaire tenant la main d'un chauffeur d'autobus puis d'avoir vu ma mère de l'autre bord du corridor. Puis je me rappelle, elle était à chaud, elle pleurait à chaudes larmes, elle a couru vers moi, puis elle m'a serrée dans ses bras. Puis c'est ça l'amour d'une mère, c'est un amour qui est puissant, c'est un amour qui est protecteur, puis c'est un amour qui est inébranlable. Et vous pouvez imaginer que ma mère, après cet incident, a eu une conversation assez animée avec la direction de l'école. Pour exprimer, c'est ça, dans les deux langues, c'est ça. C'est ça. Quand elle s'est vraiment animée, elle switch vers l'anglais. Donc, elle voulait décrire, elle voulait exprimer ses inquiétudes par rapport à l'incident, par rapport à la protection, la sécurité de sa fille. Donc, c'est un amour qui défend aussi. Puis, je sais que, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que si quelque chose de grave m'était arrivé, finalement, tout était beau, mais si quelque chose de grave, je sais que ma mère aurait tout fait pour prendre ma place. C'est un amour qui sacrifie l'amour d'une mère. Donc, comme vous voyez, c'est un amour qui a plusieurs volets, l'amour d'une maman. Et quel autre amour connaissons-nous qui a plusieurs volets, puis qui sacrifie, qui défend, qui est puissant, féroce, qui protège? C'est ça, l'amour de Jésus. Donc, le Seigneur a mis en place un modèle pour une mère qui nous pointe vers l'amour que Dieu a pour ses enfants. On lit dans Psaume 91, 4. On lit dans Psaume 91, 4. Que comme une maman oiseau, notre Dieu te couvrira de ses plumes et tu te trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, l'amour de votre maman vous pointe vers la personne de Jésus. Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant que les mères sont dévouées, comme la femme vertueuse. La mère est dévouée et elle est forte. Donc, ceci mène à mon troisième et mon dernier point. Dans Proverbe 31, on voit que la femme vertueuse, comme plusieurs des mamans que je vois dans cette salle et que je vois dans mon entourage, elles ont un cœur pour le Seigneur. Donc, premièrement, elles réalisent d'où vient sa valeur. Donc, nous vivons dans une société, dans une culture qui dit à la femme que sa valeur dépend de son apparence et dépend de sa performance. Nous vénérons qui? Nous vénérons cette femme qui élève des enfants parfaits, dans une maison parfaite, avec un corps parfait, avec une carrière parfaite et un mariage parfait. C'est ça que nous vénérons dans la société, c'est ça qu'on voit dans les films, c'est ça qu'on voit dans nos publicités. Notre société dit aux femmes, sois cette femme-là, sois plus impliquée, travaille plus fort au travail, assure-toi que tes enfants sont plus polis, que ta maison est plus propre. Puis fais tout ceci en portant des talons hauts et en t'assurant de ne pas prendre 5 livres. À ce moment-là, tu seras valorisée. Mais regardons un peu verset 30. Qu'est-ce qu'on lit? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, la femme dans Proverbe 31 voit que son identité en tant que la fille des rois, c'est ça qui lui donne sa valeur. C'est pas sa performance, c'est pas son apparence. Puis si on était pour paraphraser un peu ce verset, le fait d'avoir l'air parfaite, le fait d'avoir l'air, d'avoir tout sous contrôle, c'est trompeur, ça. Un corps parfait, ça ne va pas durer. Mais une femme qui aime et qui loue le Seigneur, ça, c'est digne de louange. Donc, rappelons-nous de ça. Son cœur pour le Seigneur, ce n'est pas une chose éphémère. C'est une chose qui a des implications éternelles. Elle voit que ça, c'est une grande beauté. Puis cette mère, elle enseigne les vérités de Dieu à ses enfants. Oh, voilà. Donc, je crois absolument à l'importance de l'école du dimanche. Je crois absolument à l'importance de l'école chrétienne et des camps chrétiens. Mais je pense qu'il est aussi important de se rappeler que les parents ne peuvent pas dépendre sur d'autres acteurs dans la vie de leurs parents pour leur enseigner la parole de Dieu. Puis, juste pour illustrer ça, je vais raconter une histoire à propos de la famille tapée vraiment vite. L'autre jour, je faisais du gardiennage chez eux. Puis, à la fin de la soirée, avec les 3 enfants, on s'est brossé les dents, on a mis les pyjamas, on s'est couché, puis on a lu l'histoire. Puis là, ils ont dit, « Oh, attendez, il faut qu'on s'assure qu'on fasse les prières. » On fait les prières à chaque soir. À chaque soir, on prie avec maman et papa. Puis, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que chacun a prié à son tour. Puis, David a prié, le petit de 5 ans. Puis, il a dit, puis je cite exactement ce qu'il a dit. Rappelez-vous, il a 5 ans. Il a dit, « Oh, Seigneur, protège mon cœur et sanctifie-moi. » Puis, j'ai dit, « 5 ans? » Je pense pas qu'il y a beaucoup de jeunes de 5 ans qui connaissent la sanctification. Je sais même pas vraiment c'est quoi, honnêtement. Puis je pense que ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que c'est pas une heure par semaine d'école du dimanche qui a mené David à prier cette prière. Parce qu'une heure d'école du dimanche, c'est pas assez. C'est important, mais c'est pas assez. Mais plutôt, cette prière, c'était vraiment le résultat des heures et des années de prière que Regina et David ont prié pour David. Du temps qu'ils investissent à enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Le temps et leur intentionnalité à instaurer des pratiques comme la prière le soir. Puis je suis sûre que si j'étais pour demander à Regina et à toutes les mères ici, si c'est quelque chose de facile à faire, elle dirait non, c'est pas facile à faire d'enseigner les vérités bibliques à leurs enfants. Ça requiert beaucoup de travail, ça requiert beaucoup de prière. Mais c'est un mandat divin. C'est un appel de notre Dieu céleste qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puis, on voit cet appel de Dieu dans les plus vieux textes bibliques, dans la Torah juive, c'est dans la Pentateuque, c'est dans les 5 premiers livres de la Bible. On voit dans Deutéronome 6 et 9, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison » et sur les portes de ta ville. Donc, on voit que Dieu, pour lui, c'est tellement important que les parents prennent cet appel au sérieux. Donc, ce message était un peu plus court parce que je suis habituée à des plus longues annonces. J'aime pas papa. Donc, en conclusion, on a vu ce matin que le modèle que Dieu a instauré pour la femme vertueuse, premièrement, on a vu qu'elle est une femme dévouée. Donc, pensons au dévouement de nos mamans, aux femmes de cette assemblée, pensons à leur dévouement, à quel point elles travaillent fort, à quel point elles veulent bénir sa famille et à quel point elle est dévouée à son mari. Et nous avons vu que ce dévouement est différent d'une femme à une autre. Qu'elle soit femme avec une carrière ou mère au foyer, elle est dévouée. Deux, nous avons vu sa force, parce qu'elle est Ezer Shaïl. Et Ezer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est une aide vitale, c'est une aide puissante, c'est une aide qui protège et qui vient au secours. Et Shaïl, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est vaillante et qu'elle est brave. Et on voit ceci à quel niveau? On voit ceci au niveau de son physique, on voit ceci au niveau de sa moralité, mais aussi au niveau de son amour féroce. Et finalement, pour le numéro 3, nous avons vu son cœur pour Dieu. Et on voit ceci en ce qu'elle voit et comprend d'où vient sa valeur. Et elle comprend son identité en Dieu et qu'elle enseigne les vérités de Dieu à ses enfants. Donc, merci à vous toutes qui êtes mères. Merci de montrer quotidiennement ces caractéristiques. Votre rôle est important, puis on veut le célébrer ce matin. Vous êtes d'une grande valeur et on veut vous remercier. Donc, je vais finir avec une dernière pensée. Donc, dans le verset 16, on lit que la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Puis, je sais que ça semble un peu étrange comme verset sur lequel finir ce message. Ça veut dire quoi, ce champ? Mais en fait, c'est Jésus qui va venir donner du sens à ce champ. Tout a du sens quand Jésus entre dans l'histoire. Le proverbe 31:16 est d'une importance immense quand Jésus entre dans l'histoire. Donc, tournons à Matthieu 13:44 qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, la mère vertueuse dont on a parlé aujourd'hui, elle a compris ceci. Jésus suggère qu'il voudrait à peine de tout perdre, de perdre ses biens matériels, de perdre sa popularité, sa réputation et son confort pour gagner le royaume de Dieu qui est dans ce champ. Puis qu'est-ce que cette femme, elle a fait? Simplement, elle a pensé au champ puis elle l'a acquis. Donc, dans l'invitation que Jésus nous lance à tout mettre en œuvre pour acquérir ce champ et le royaume de Dieu, imitons tous la femme de Proverbe 31 qui pense au champ et l'acquiert, simplement, avec dévouement, avec force et avec un cœur pour le Seigneur. Amen.